Bonjour à tous.
Bonjour.
Toujours, on use toujours de ce privilège de donner la parole de Dieu puis de l'entendre aussi. Je pense qu'on doit considérer ça comme étant un quel privilège. Alors, ça fait quelque temps que je réfléchis, que je médite sur un sujet que je dois vous confesser, je trouve extrêmement difficile dans la vie chrétienne. Avez-vous une petite idée de ce à quoi ça peut être? Comment? Non, c'est pas ça. Mais, non, c'est que je médite pas sur le fait qu'il faut que je sois plus patient, mais le sujet sur lequel j'ai réfléchi depuis les dernières semaines, non, vous allez être surpris, mais c'est la prière. Un sujet que moi, personnellement, je trouve assez difficile. Mais pas prier comme on lit dans Matthieu 6, où Jésus donne des instructions sur la prière, puis qui dit de ne pas prier pour être vu des hommes ou en multipliant des vaines paroles. C'est pas à ce niveau-là, moi, que je réfléchis, là. Des formules toutes faites ou encore des paroles mécaniques, pensant que à force de paroles, ben l'exaucement, ça va venir. C'est comme ça qu'on a appris quand on était jeune, quand on était dans notre ancienne façon de vivre puis de penser. Je me souviens quand on allait à confesse, le curé disait « Tu diras trois, je vous salue Marie, puis un Notre Père », comme quoi que ça allait faire, ça allait changer quelque chose. Alors qu'on sait bien que... Puis je réfléchissais pas non plus dans le sens de penser que les prières publiques sont inutiles, parce que on lit encore dans Matthieu, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Donc, ce n'est pas sur ça non plus que je médite, à savoir que ben, les bonnes prières, c'est les prières qui sont faites tout seul dans la maison, chez vous, sur les corps. Non, parce que tu peux aussi prier en mes publics, c'est aussi valable. Sinon, si c'était le cas, ben Jésus il aurait jamais dit ce qu'il a dit dans Jean 11. Tournez avec moi, Jean 11, lorsque Jésus ressuscite que Lazare. Jean 11, verset 41. Alors, Jean 11, verset 41, Jésus est devant le tombeau de que Lazare, que son ami. Puis là, il dit à ceux qui sont là, verset 41, « Ôtez donc la pierre. » Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, ce qu'il va dire, c'est public. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors. » Alors, si les prières publiques, c'était pas bon, le Seigneur n'aurait pas pris le temps de dire ça. Alors, donc, c'était pas sur ça que je méditais, bien sûr, que c'est un petit peu plus tard. Donc, on peut se poser la question à savoir pourquoi les chrétiens sont-ils appelés à prier? Parce que partout dans les Écritures, on voit bien que c'est la part du chrétien que de prier, que s'adresser à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens sont appelés à prier? Parce que, quand ils font ça, ils confessent à Dieu leur impuissance, puis ils demandent à Dieu que son nom soit glorifié. C'est le but de la prière. Qu'on reconnaisse que, regarde, moi, je ne suis pas capable. Mais en même temps, je veux que ton nom soit glorifié, que ton nom soit connu, que ton nom soit apprécié. Dans le monde entier, là, la majorité des endroits où le christianisme est, c'est pas toujours le cas, en tout cas. Puis, en passant, c'est le modèle de prière du Notre Père, ça. Lorsque Jésus a donné, il a dit à ses disciples, « Lorsque vous priez, dites, Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Alors ça, C'est le modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Dieu nous rappelle qu'on a besoin de lui pour toute chose. Avant, on pouvait se passer de Dieu. Aujourd'hui, le croyant ne peut plus se passer de Dieu. Il doit intercéder en faveur des autres parce que lui-même ne peut rien faire pour changer la compréhension puis la vie des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, c'est à nous de demander à Dieu d'intervenir de la façon que lui va avoir choisi. On doit aussi, dans la prière, présenter les hommes à Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Dans Jacques 4, 2, on lit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous avez déjà lu ça, hein? « Vous ne possédez pas pour la simple et bonne raison que vous ne demandez pas. » Un petit enfant, lorsque c'est le temps de Noël, s'il n'a rien demandé à ses parents comme cadeau, il va en avoir un pareil.
Oui.
Mais il n'y aura peut-être pas celui qui aura voulu parce qu'il n'y a rien demandé. ça peut être possible. Ça peut être possible que Dieu retienne sa bénédiction à l'occasion. Dans le but, justement, de nous encourager à lui demander. Dieu peut agir de même. Je suis pas en train de vous dire que c'est... J'ai vu ça dans la Bible, mais il peut agir comme ça. Il ne répondra pas tout de suite pour la simple et bonne raison qu'on ne lui a pas demandé. Alors, il va attendre. Dans Matthieu 7, 7, on lit aussi « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car... » Ça, c'est l'argument qui donne le... Pourquoi? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Frappe pas, on n'ouvre pas. C'est correct, ça? Bon. Si on est trop fier ou trop paresseux pour demander, il ne faut pas s'attendre à recevoir. Tout le monde comprend ça, c'est une règle universelle. Demande rien, tu n'auras pas grand-chose. Cherche pas, tu ne trouveras pas non plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de la madame dans Luc 15 qui avait perdu un drachme. Sur les 10, là, elle en a perdu un. Qu'est-ce qu'elle fait pour le retrouver? Elle allume la lampe, elle passe le balai partout. Puis elle cherche soigneusement le drachme qu'elle a perdu. Alors, on voit qu'il y a un effort de mis pour trouver ce qui a été perdu. Cherchez et vous trouverez. Ça fait partie des enseignements que le Seigneur il nous a laissés. Donc, l'aspect que je trouve le plus difficile, comme je vous disais tantôt, c'est pas tellement la prière comme telle. Mais c'est le fait d'être... Là, c'est qu'on revient à ça, d'être patient. Patient, puis d'éviter de tomber dans le découragement, parce que la réponse tarde à venir. Je vous dis que vous savez, Fernand Saint-Louis a déjà prié 25 ans pour la conversion d'une la personne. Mais si on fait face à ce problème-là, à savoir que c'est long avant que la réponse vienne. Si on fait face à ce problème-là, on a tous un sujet d'action de grâce à rendre au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a laissé une parole d'encouragement dans la parabole qu'on va regarder ensemble. Puis je vous invite à tourner dans Luc 18. C'est la parabole qu'on va regarder. La parabole du juge inique ou de la veuve persévérante. Un ou l'autre, là, vous pouvez c'est donner le titre que mais vous voulez. Luc 18. Mais avant de le lire, non, on va le lire tout de suite, je pense. OK. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Que longtemps, ça c'est combien de temps? On ne le sait pas. Mais longtemps, c'est long. Alors, pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Car pour moi, ça en était un autre, c'est avec impatience. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors Jésus donne cette parabole-là, mais c'est à quoi l'occasion de la parabole? C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a amené à parler de ça à ce moment-là. Alors, l'occasion de la parabole, on la voit juste au chapitre précédent, c'est-à-dire dans Luc 17, au verset 23. Luc 17, verset 23, on lit, « Il est ici, il est là, n'allez pas et ne courez pas après. » Alors, Jésus donne des instructions à ses disciples sur la nécessité d'être prêt. Puis, il leur dit qu'ils ne doivent pas se laisser tromper par ceux qui vont prétendre les renseigner sur la venue du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il dit ça. Il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Alors, il est en train de le dire, vous allez entendre beaucoup de choses concernant le retour du Fils de l'homme. Mais énervez-vous pas avec ça, là, que ne les croyez que même pas. Alors, le Seigneur les enseigne de ne pas se lasser de prier pendant les temps difficiles qu'ils vont avoir à traverser en attendant leur délivrance. Puis, le Seigneur met en contraste la manière d'agir d'un juge inique avec celle du Dieu d'amour plein d'affection pour les siens. C'est ça qui amène notre parabole qu'on vient de lire. OK. 16 mars 1978. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Sûrement pas, mais quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah oui, je me souviens de ça. Le 16 mars 1978, il y a un pétrolier qui portait le nom de Amoco Cadiz, qui transportait du pétrole brut du golfe Persique vers l'Europe, qui a fait naufrage sur le long des berges de la Cabretagne, en France. Puis il s'est vidé de 230 000 tonnes de mazout brut dans la mer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Puis là, on voyait à la télévision des oiseaux qui étaient bourrés, qui étaient tout collés puis tout pognés dans ça, là. Enfin, c'était quand même que majeur. Ça a été la plus grande marée noire jamais enregistrée. Puis la maison mère, la Standard Oil, a été condamnée à verser à l'État français plus d'un milliard de francs et 226 millions aux Bretons. Ça fait presque 48 ans. Imaginez aujourd'hui le prix que ça leur aurait coûté, 48 ans plus tard. La justice a fini par prononcer un jugement définitif en juillet 1992. L'événement s'était passé en mars 1978. Faites le calcul, ça a pris 14 ans avant qu'il y ait un règlement. 14 ans! 14 ans d'attente! Il y a même quelqu'un un jour qui a dit « Les Bretons, la ténacité des Bretons a fini par vaincre les puissants groupes pétrolier et financier responsable de ce désastre-là. Mais ça a quand même pris 14 ans. Le maire de la place, là, ça a été un homme, un leader qui a ramassé toutes les maires des villes avoisinantes. Puis là, ils ont monté un dossier pour être capable de faire de quoi contre ces responsables-là. Mais ça a pris du temps. Alors, c'est bien connu, plus tu es riche, plus tu peux te payer des avocats et plus ça risque d'être long en cours. 14 ans, c'est probablement la raison pourquoi la Standard Oil a pu étirer ça, puis étirer ça. Alors, on sait, certaines décisions judiciaires peuvent même s'avérer être des décisions politiques. Exemple, si une méga compagnie est accusée de fraude, mais que cette même compagnie-là est un généreux donateur pour le parti politique en place. Que vous voyez un petit peu où ce que je veux en venir, là. La décision en cours peut être teintée. La justice, qu'on dit être la même pour tous, ne s'applique pas nécessairement de la même façon à tous. On dit que la justice est la même pour tous. Mais on voit des différences quand celui qui a les moyens de se payer des avocats, ça va traîner, puis ça va traîner. Parce que les avocats, j'ai rien contre eux autres, là, mais il y en a qui ont la particularité d'être champions pour s'enfarger dans les fleurs du tapis. C'est comme ça souvent que ça va. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi. Lorsque Mom Boucher avait passé en cour parce qu'il avait été accusé du meurtre de deux gardiens de prison, ça l'a traîné pour que finalement il soit déclaré non coupable. Mais il y avait des raisons à ça. Il y avait des gars, des Hells Angels, qui s'assoyaient sur les premières rangées en face des méjurés, puis qui les regardaient, puis qui les influençaient. Alors, ça a joué dans ça, jusqu'à temps qu'une madame qui a pris ça en main, je me souviens pas de son nom, tu te rappelles de son nom? En tout cas, c'est elle qui a pris ça en main, puis elle a amené l'enquête, puis tout ça, là, où ce qu'elle a pu, sans l'ombre d'un doute, accuser Mom Boucher comme étant responsable des meurtres. Mais ça a traîné justement à cause des jeux d'avocats, puis mais tout ça. Alors, si vous êtes puissant et milliardaire, les jugements de cour peuvent être différents que si vous êtes misérable et pauvre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui a dit ça? Salomon avait dit ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Probablement l'homme le plus sage qui est passé sur la terre, mis à part le Seigneur Jésus-Christ. Puis, il a également dit, cet homme-là, « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. » Alors, Salomon, lorsqu'il a terminé son livre sur l'Ecclésiaste, il a conclu en disant, au chapitre 12, le verset 15, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. » C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, l'accent est mis sur la relation avec Dieu et l'obéissance à ses commandements. C'est ça que Salomon dit. C'est là ce que doit faire tout homme. Mais c'est exactement ce que notre juge de notre parabole dans Luc 18, lui, c'est exactement ce qu'il ne faisait pas. Il n'y avait pas de respect pour les commandements de Dieu, encore moins il lui obéissait pas non plus. Alors, la justice ici-bas est entachée d'injustice. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Et ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui soit là, dans une position extrêmement importante de juge, qui ne devrait pas être là. Mais ça arrive. Mais il faut faire attention ici. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole-là du juge inique, son but n'était pas de faire le procès de la justice. Parce que, comme on vient de le voir, là où il y a de l'homme, exactement, il y a de l'hommerie. Là où il y a des singes, il y a des singeries. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, malheureusement, des fois, ça arrive qu'il y en a qui sont dans des positions extrêmement importantes où ils ne devraient pas être là et ça cause du trouble. Mais il faut quand même être prudent puis ne pas généraliser parce qu'il y en a des bons. Il y en a qui ont des postes importants qui remplissent bien leurs tâches. Alors, il ne faut pas généraliser et dire « Ah, on sait bien tout ce qui est en cours, tout ce qui est la justice, tous les avocats, c'est des bons rien. » Mollo. OK. Alors, l'objectif visé par Jésus était très clair. Lorsqu'on lit dans Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer, et c'était ça le but, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est la raison première pour laquelle le Seigneur a donné cette parabole-là. Alors, la parabole nous parle de trois personnages. Un juge, une veuve et son adversaire. Environ 900 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un roi qui s'appelait Josaphat, qui a été un bon roi dans le royaume de Juda au sud d'Israël. Puis Josaphat, il avait décrété le rôle des juges de son peuple. Tournez dans 2 Chroniques, chapitre 19. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 6. Alors, Josaphat, il avait donné ça comme ordre. 2 Chroniques 19, 6. Et il dit au juge, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Ou encore, si on veut, ni pot de vin. Parce qu'il y en a qui se sont fait acheter, donc au cours de l'histoire, on a vu ça. Il y a des juges, il y a toutes sortes de gens en position élevée qui se faisaient acheter avec des pots de vin. On va te donner ça, donne-nous ça. Alors, le juge ici, dans notre parabole, lui, il n'a jamais tenu compte des demandes que Josaphat avait faites. C'est sûr qu'on ne sait pas si c'était probablement pas dans le même temps, mais peu importe, Jésus se sert d'une parabole pour expliquer un fait. Donc, le juge, c'est clair, il ne tient pas compte de ce qui avait déjà été demandé au juge selon Israël. On a juste à relire le verset 2 de Luc 18. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. On est mal pris quand c'est un juge de même qui a plaidé à notre cause, là. Alors, cet homme d'autorité-là vit et rend la justice avec la conviction que lui, il n'y a pas de compte à rendre à personne, puis que c'est lui le maître. On a aussi une veuve, notre deuxième personnage de la parabole. Puis elle, c'est un petit peu l'image de la faiblesse puis de la vulnérabilité. On a une pauvre petite veuve. En ce temps-là, en Israël, on pouvait marier les jeunes filles parfois lorsqu'il y avait 13 et 14 ans, aussitôt qu'ils étaient capables d'avoir des enfants. On les prenait, puis on les mariait, puis souvent, ils étaient mariés avec des hommes pas mal plus vieux qu'elles. Moi, je me souviens, je travaillais avec une madame, Agapé Comeau était début soixantaine. Son mari en avait 80. Il n'y a absolument rien de mal que, là-dedans. Sauf que quand son mari est mort, on n'était comme pas trop surpris. C'est comme assez clair qu'il va peut-être mourir avant elle. Alors, dans ce temps-là, c'était la même chose. Souvent, lorsque des jeunes filles mariaient des personnes âgées, ben ça arrivait des fois que les jeunes filles devenaient veuves parce que leur mari était mort avant eux. La condition que je suis en train de vous expliquer là, ça existe encore aujourd'hui. En Afghanistan, sous le régime des talibans, on prend des jeunes filles de 13-14 ans et on les marie avec des messieurs qui peuvent avoir 30, 40 puis 50 ans. C'est courant, ça. En Afghanistan, chez les talibans. Alors... C'était pas rare qu'une femme, en ce temps-là, soit veuve parce qu'elle était encore très jeune. Ce qui les plaçait dans une position sociale extrêmement précaire. Dans une société qui est dominée par des hommes, si la madame n'est pas sous la protection d'un homme, ben une veuve peut se retrouver dans un grand besoin puis une grande pauvreté. La parabole du Seigneur Jésus-Christ vise ça, là. Alors, souvent, les veuves étaient condamnées à une existence misérable. C'est pour cette raison-là que la loi de Moïse demandait qu'on prenne soin des veuves. Regardez ce qu'on lit dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10, verset 12, c'est écrit: « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ?» Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Verset 17. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Alors, faire droit, ça veut dire être impartial, sans parti pris. Et c'est comme ça que Dieu est, et c'est comme ça qu'il demandait aux êtres humains d'être vis-à-vis les autres aussi. Ésaïe lui disait dans Ésaïe 1, 17, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ça faisait partie des commandements de Dieu. Alors, le juge dans Luc 18, lui, il applique la loi pour les plus forts ou les plus riches, alors que normalement, la loi était censée protéger les droits des plus faibles puis des plus pauvres. Alors, notre veuve, dans la parabole, a personne pour la défendre, puis celui qui pourrait le faire, il le fait pas. C'est quand même bien arrangé, hein? Puis, on a la troisième personne de cette parabole-là, l'adversaire. Mais on ne sait rien de lui parce que Jésus ne donne aucun détail sur cette personne-là. Même pas la controverse qu'il oppose à la veuve. On ne sait rien sur lui, donc on n'ira pas plus loin que ça. Mais quand on y réfléchit comme il faut, la veuve, finalement, a deux adversaires. Elle a la personne avec elle, c'est un litige, puis le juge qui se trouve à être cette barrière-là, infranchissable, puis qui empêche toute forme de règlement. Alors, la pauvre petite veuve, elle en a deux, là. Elle a son adversaire, puis elle a le juge qui ne fait rien pour elle. Alors, le message de la parabole, je pense que c'est clair, il est impensable que le faible fasse plier quelqu'un de plus fort que lui. Mais mettez-vous à sa place, là. Mais ça nous présente aussi quelqu'un qui a une arme redoutable entre les mains. Je parle, moi, de la veuve, là. C'est quoi son arme? C'est la patience, la détermination, l'acharnement, la persistance, la persévérance. Puis c'était le but du Seigneur Jésus-Christ dans cette parabole-là, montrer qu'il faut toujours prier et manifester ces caractéristiques-là dans nos prières. Si on prie pour une affaire deux fois, puis que parce qu'on ne l'a pas eu, on arrête, bien là, il y a quelque chose qu'il faut relire dans Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier, c'est finalement confesser à Dieu qu'on est impuissant, sans ressources, et qu'on a besoin de lui pour faire ce qu'on est incapable de faire sans lui. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas pour rien qu'il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais bizarrement, Jésus, dans son histoire, il ne se tourne pas vers la vertu de la veuve, c'est-à-dire vers sa persévérance. Mais il nous dit de regarder ce que le juge unique dit. Au verset 6, dans Luc 18, « Entendez ce que dit le juge unique. » Là, on peut se demander comment et pourquoi on devrait écouter quelqu'un comme lui, qui n'a aucun respect pour personne. Comment et pourquoi on devrait écouter ce qu'il dit? Mais puisque le Seigneur Jésus-Christ demande que de le faire, on va le faire. Entendez ce que dit le juge unique. Et qu'est-ce qu'il dit, le juge unique? Verset 5. « Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ou me déranger, m'exaspérer, m'irriter. » Je vais régler son cas parce que là, je suis tanné de l'entendre. Alors, si le juge qui n'a aucune crainte ni aucun respect pour Dieu finit par faire justice à la veuve, quelle leçon doit-on en tirer, nous, les croyants? Bien, à la fin de la parabole dans Luc 18, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça, c'est la leçon qu'il faut qu'on retienne de cette parabole-là. Puis je pense qu'on peut faire, sans trop faire de spiritualisation de versets, là, dire que la veuve ressemble à l'Église de Jésus-Christ. Au même titre que la veuve faisait constamment face à un refus de justice, le juge, il ne voulait pas y rendre justice. L'Église vit et a toujours vécu au sein d'une société qui n'a aucun intérêt pour elle. Et attendez-vous pas que ça change. L'Église, en 2026, vit les mêmes problèmes, ben peut-être différemment, mais l'Église, c'est jamais un groupe qui va passer là, comme étant « Ah, les bons chrétiens! » La majorité de la société, des gens dans la société, ils nous ont en grippe. Là. Il y en a sûrement dans vos familles qui sont de même. Hein. Vous leur dites du bien, vous leur faites du bien. Est-ce qu'ils sont reconnaissants à votre égard? Moi, il y en a dans ma famille, pas dans ma famille propre, mais j'ai des oncles, là. C'est des moyens cow-boys, là. T'as beau leur dire puis faire du bien, ils vont toujours te voir comme étant des imbéciles, puis des ignorants, puis des... Mais c'est comme ça. Alors, l'Église vit et a toujours vécu au sein d'une société qui n'a aucun intérêt pour elle et qui ne tient pas particulièrement à l'aider, même qui s'oppose à elle. Puis dans cette société-là, on trouve un adversaire qui s'élève contre le Seigneur de l'Église. L'apôtre Pierre, il nous le rappelle dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici, c'est quand même pas trop pire. Mais dans les pays, là, en Europe, il y a des pays où le régime communiste règne, c'est pas mal plus rough que ça. Il y en a qui, aujourd'hui encore, là, à cause de leur foi, sont emprisonnés, sont maltraités, sont... mais c'est quoi qu'on dit, là, quand on...
Persécutés,
ils sont... Il y a un mot, là, quand tu fais souffrir quelqu'un, là, martyrisés. Il y en a encore, en 2026, qui sont martyrisés pour leur foi. On ne connaît pas ça, nous autres. Vous suivez? OK. Paul, dans Éphésiens 6:12, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est la lutte qu'on est appelé à livrer. Ça. Alors, cette parabole-là nous enseigne en servant d'un contraste, à savoir que les mauvaises actions d'un homme, ici il est question du juge, nous instruisent quant aux bonnes actions de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Dieu. Dieu lui-même. Si ce juge-là plie devant la persévérance d'une veuve qu'il ne connaît pas et envers qui il n'y a aucune compassion, à combien plus forte raison le Dieu saint va-t-il écouter nos prières persévérantes? Lui qui nous aime d'un amour éternel. Alors, la comparaison, c'est ça, c'est là qu'il faut la faire. Il y a quelqu'un de pas gentil qui finit par céder. Alors, à plus forte raison, quelqu'un de gentil qui nous aime, si on lui demande d'agir, il va-tu le faire? Bien, il me semble. C'est la moindre des choses. Le temps que ça va prendre, ça ne nous regarde pas, ça. C'est pas ça qui compte. C'est juste de savoir, il va-tu nous faire du bien? Il veut-tu nous faire du bien? Oui, comparativement au juge qui, lui, n'en avait rien à foutre. Rien à cirer, si on veut. Alors, est-ce que Dieu ne répondra pas aux siens? C'est évident, lorsqu'on revient encore à Luc 18:7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est la parabole que le Seigneur il nous laisse. Puis si on trouve que la réponse peut être longue à venir, mais probablement que Dieu il a de bonnes raisons pour patienter. Ces raisons-là, bien souvent, on les ignore. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Il ne faut pas non plus se créer de fausses attentes. Penser que Dieu nous a promis ça, alors qu'il n'a jamais promis ça. Il faut connaître les Écritures, il faut connaître notre Dieu vers qui on intercède et savoir qu'est-ce qu'il fait, quand il fait et comment il fait. Il ne faut pas mettre nos attentes comme étant les mêmes attentes que Dieu. Il y a des jeunes qui m'ont déjà dit, « Ah, ben moi, je vais sortir avec une inconvertie parce que je vais l'amener au Seigneur. » Où tu vois ça dans les Écritures? Hein? Et si ça arrive que Dieu l'amène au Seigneur, c'est-tu parce que tu as été fidèle? Il y a quelqu'un un jour qui m'a déjà dit, il dit, la bénédiction de Dieu n'est pas un signe de son approbation. Dieu bénit parce que c'est un Dieu bon, riche en bonté, en miséricorde, il nous aime. Il nous aime même quand on lui désobéit. Quand nos enfants nous désobéissent, on arrête-tu de les aimer? C'est la même affaire avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas s'imaginer que ben, Dieu garde, il a béni, donc il va approuver. Ce qui est clair dans la parole de Dieu reste clair. Alors, la comparaison entre la veuve et l'Église de Jésus-Christ est facile à faire. La présence spirituelle du Seigneur dans son Église sur la terre est bien réelle. Lui-même a promis que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a promis ça. Je vais être là. Il a aussi envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit le consolateur de cette Église. Alors, ça devrait être une source d'encouragement. La veuve aussi a ses consolations. Elle se souvient de son mari, de ce qu'elle a vécu avec lui. Mais là, il est plus là, le mari. La veuve n'a pas l'aide qu'elle serait en droit d'avoir à cause du juge. L'Église possède aussi un adversaire sur la terre qui, comme on l'a vu tantôt, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Alors, comme la veuve, l'Église est vulnérable, sujette à la persécution, elle vit dans un monde qui rejette le message de l'Évangile et elle doit, elle aussi, souvent crier au Seigneur, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Alors, je pense que l'Église puis la veuve, c'est comparable. C'est assez facilement, mais comparable. Mais la veuve, elle nous enseigne pas juste une leçon sur la persévérance dans la prière, mais elle nous enseigne une leçon sur la persévérance dans la vie chrétienne. Regardez ce que Paul disait aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Paul y dit, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Et vous êtes encore ferme. C'est ça, la vie chrétienne. C'est de rester persévérant jusqu'à la fin. Puis malheureusement, trop souvent, les années qui passent font en sorte qu'il va s'installer un genre de paralysie ou un sommeil doctrinal qui s'empare de l'Église. Vous avez tous déjà connu ça, hein? Combien qu'il y en a, même ici, qui sont déjà venus, si on recule de 20, 30 ans, il y avait des gens ici qui ne sont plus ici. Pour quelles raisons ils ne sont plus ici? 1, probablement qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur, ou ils se sont endormis. Les années passent, puis on se bat moins, ça nous tente moins. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est-à-dire que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Tout le monde sait ça. Mais le problème avec ça, c'est qu'elle n'attend pas vraiment le retour. Elle n'attend plus le retour de son époux. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, mais pour certains, c'est comme s'ils ne l'attendent plus. Quelqu'un a déjà dit, elle devient plutôt l'amante du monde. L'amante du monde. Chose extrêmement grave et extrêmement triste. À la fin de la parabole, Jésus fait un rappel solennel au verset 8. Il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Parce que, on le sait tous, il va revenir. Assurément. Croyez-vous que le Seigneur il va revenir?
Oui.
OK. Ça, c'est une chose. Il l'a dit. Donc, il va le faire. Sa question, qu'est-ce qu'il va trouver au jour de son retour? Si on veut l'appliquer encore plus précisément, de quelle manière est-ce que je vis aujourd'hui et dans quelles conditions spirituelles est-ce qu'il va me trouver lorsqu'il va revenir? Si le Seigneur revient après-midi, parce que ça peut arriver, hein? S'il revient après-midi, dans quel état est-ce que je vais être? Est-ce que ma vie, est-ce que mes prières sont orientées dans la direction que Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand Jésus demande s'il va trouver la foi sur la terre, je ne pense pas qu'il est en train de dire que la foi va s'éteindre. Parce qu'il sait très bien qu'on vit dans un monde déchu, qui méprise notre foi, puis dans lequel même l'amour de beaucoup se refroidit. C'est probablement pour ça qu'il y en a qui étaient ici il y a 20-30 ans qui ne sont plus ici. Leur amour s'est refroidi vis-à-vis les chrétiens et vis-à-vis Dieu. Je ne veux même pas parler de leur salut. Il manque trop de données pour porter un jugement dessus. Mais il reste une chose, ils ne sont plus là. Alors moi, je pense que lorsque le Seigneur il donne cette parole-là, il nous donne plutôt une invitation à se sonder nous-mêmes. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sondons-nous personnellement, chacun de nous. Comment est-ce que je vis ma vie chrétienne? Ça fait quasiment 50 ans que je connais le Seigneur. Je commence à en savoir pas mal des affaires. Comment vivons-nous ça? Moi, je pense qu'on a une invitation à sonder puis une exhortation à persévérer. Si le Seigneur retarde, s'il nous garde la santé, moi j'ai 70, s'il me donne encore 20 ans à 90, est-ce que je vais encore persévérer, m'acharner, continuer, persister, tenir ferme dans ma foi? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ça représente probablement la sorte de foi qui habitait la veuve. Ça nous indique aussi peut-être que lors du retour du Seigneur, il va rester juste un petit reste fidèle. C'est triste, ça. Le Seigneur est venu donner sa vie pour une multitude de gens, mais il y en a en cours de route qui débarquent. La raison pourquoi ils débarquent, je ne veux pas aller là-dedans, mais il y en a qui débarquent. Alors, en attendant son retour, chacun de nous, on devrait être stimulé à cette sorte de foi que la veuve avait, qui crie à Dieu jour et nuit, puis qui ne se fatigue pas de le faire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est tellement heureux et reconnaissant de ce que tu nous laisses des écrits, de ce que tu nous laisses des paraboles, des histoires pour nous aider à mieux comprendre ce que nous devons comprendre. Seigneur, on a vu l'histoire d'une veuve qui ne cessait d'implorer la grâce d'un homme qui n'avait aucun respect pour elle, mais qui a fini par avoir gain de cause. À plus forte raison, Seigneur, nous qui te connaissons, nous qui savons que tu es un Dieu trois fois saint, un Dieu qui nous aime profondément au point d'avoir laissé ton Fils mourir sur une croix, on veut te dire que nous apprécions qui tu es et on veut apprendre à avoir confiance en toi, pour que tu puisses en retirer tout l'honneur et toute la gloire. Et c'est dans le nom béni de ton bien-aimé Fils que nous te demandons ces choses. Amen.